Il y a 50 ans, jour pour jour, le 16 octobre, c'était également un vendredi à la demande du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal. La loi sur les mesures de guerre est proclamée par le fédéral. On se souvient tous de cette entrevue impromptue en anglais, si vous en souvenez pas. Entrevue qui a été donnée une espèce de scrum, là, où c'est le premier ministre Trudeau de l'époque, le père de Justin, qui répond à des questions de journalistes. Et vous allez voir, là, il va ressortir de là une expression qui a fait légion depuis.
In the kind of society that you live in.
Well, there's a lot of bleeding hearts around who just don't like to see people with helmets and guns. All I can say is go on and bleed. But it's more important to keep law and order in this society than to be worried about weak-kneed people who don't like the looks of a soldier.
At any cost? At any cost? How far would you go with that? How far would you extend that?
Well, just watch me.
Le fameux « just watch me ». Ce qu'il disait, en fait, c'est il dit « ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cœurs tendres dans la place qui ne peuvent pas supporter la vue de soldats avec leur casque et leur fusil. Tout ce que je peux dire, c'est allez-y pleurnicher, mais c'est important de maintenir l'ordre et la loi dans la société plutôt que s'apitoyer sur ceux dont les genoux flageolent à la seule vue de l'armée. C'est une traduction que vous pouvez lire dans le livre de Louis Fournier, d'ailleurs, qui fait l'histoire de ce mouvement clandestin qui était le FLQ. Louis Fournier, qui est ce journaliste de CKAC, qui à l'époque a lu le premier, la déclaration du FLQ, le manifeste du FLQ. Je voulais qu'on parle de ça, mais je trouvais ça important. Puis en fin d'émission aujourd'hui, faire un petit peu d'histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont aucune idée de ce que c'était octobre 70. Les plus vieux, eux, s'en souviennent. Et si vous avez des commentaires et des anecdotes à nous dire là-dessus, bien sûr, appelez-nous au 514-790-9850. J'aurais envie de vous dire, où étiez-vous le 16 octobre 70? Évidemment, les plus jeunes, pas encore là, mais les plus vieux, si vous y étiez ou si vous pouvez témoigner de ce qui se passait à l'époque, vous pouvez nous joindre également en faisant le 1-866-790-9850. Gilles Laporte est historien et est prof d'histoire au Cégep du Vieux-Montréal. Bonjour, Gilles.
Bonjour.
16 octobre 70, c'est une date importante, là.
Effectivement. C'était dans la nuit, en fait, c'était à 4 heures du matin. La nuit, là, les complots. Là. Bref, à 4 heures du matin, le gouvernement Trudeau obtempère, dit-il, à la demande du gouvernement du Québec et du maire de Montréal, et déclenche la loi des mesures de guerre, une loi d'exception qui dotait l'armée, la police et même les fonctionnaires, les juges de paix, de pouvoirs extraordinaires en temps de paix. Donc, y compris pouvoir d'arrestation, pouvoir d'interrogation, pouvoir d'emprisonnement, sans mandat, sans preuve, sans motif.
Comment ces mesures de guerre, comment cette intervention peut-elle être justifiée à la lumière de ce qu'on en sait aujourd'hui, d'après toi, ou ce qu'on en savait à l'époque d'abord et ce qu'on en sait aujourd'hui?
On en discute, bien sûr, depuis 50 ans. Rappelons son caractère absolument exceptionnel. C'est la seule fois dans l'histoire du Canada qu'elle a été déclenchée en temps de paix. Elle vise donc à mobiliser l'ensemble des ressources du gouvernement, à suspendre les pouvoirs du Parlement aussi, donc plus un vote en chambre, quoi que ce soit. Le cabinet fédéral s'empare de tous les pouvoirs judiciaires et militaires afin de rétablir l'ordre, et en ce cas-ci dans la province de Québec. Alors c'était évidemment le débat. On a souvent parlé on a utilisé une mitrailleuse pour tuer une mouche, en parlant du fait que les FLQistes n'étaient en fait qu'à peine une douzaine et que on a utilisé des moyens énormes, y compris l'arrestation de plusieurs centaines de personnes pour en fait venir à mettre la main au collet des FLQistes, mais on n'en a arrêté aucun. C'est ça qui est en plus ironique, c'est que la loi des mesures de guerre ne permettra même pas de mettre la main sur les ravisseurs de Cross ou de Pierre Laporte, puisqu'ils vont rester planqués. Mais on va arrêter, en revanche, des poètes, des artistes, des chefs syndicaux comme Michel Chartrand, des poètes comme Gérald Godin, parfois pour des motifs absolument futiles. Imaginez, Isabelle, il y a même un type qui me confiait qu'il a été arrêté parce qu'on a trouvé dans sa bibliothèque un livre de voyage de Cuba. Un guide de voyage, donc, mais Cuba, un pays communiste, donc ça le rendait suspect et il a été arrêté plusieurs jours pour ce motif-là.
Parce qu'à l'époque, on disait que les FLQistes avaient des liens, étaient financés par des organisations dont certaines, et que c'était, il y avait Cuba derrière ça, là.
Exactement. Ouais. Alors, on ne faisait pas preuve de discernement, on arrêtait devant tout doute raisonnable.
Ouais, le livre de Louis Fournier, j'en parlais tout à l'heure, le livre de Louis Fournier, ce journaliste de CKAC qui a fait l'histoire de ce mouvement-là, qui sort, c'est chez VLB Éditeur que vous pouvez lire ça, qui s'intitule FLQ. Quand on parle justement de l'intervention du 16 octobre 70, il rappelle ce que l'un des bras droits de Trudeau à l'époque, le ministre Jean Marchand, avait dit. Il parlait des 3000 membres du FLQ, 3000 aujourd'hui, on a envie de dire, ben voyons donc. Et donc, je cite ce que disait Jean Marchand, là, tel que rappelé dans le livre de Louis Fournier. Il dit « Quiconque connaît bien l'organisation du FLQ à l'heure actuelle ne peut pas s'empêcher de constater que l'État même du Québec et l'État fédéral sont réellement en danger au Canada. » Ça, c'est le ministre Jean Marchand de l'époque qui parle. Il dit « Les plus pessimistes disent qu'il y a près de 3000 membres du FLQ. Je ne sais pas si ce nombre est exact, » dit Jean Marchand, « mais je sais qu'il y en a un certain nombre. » Fait qu'on dit « Il y en a peut-être 3000, mais on ne sait pas combien il y en a, mais il y en a. » Et je sais également une autre chose, poursuit Jean Marchand, c'est qu'ils sont infiltrés dans tous les endroits vitaux stratégiques de la province de Québec, dans tous les postes où ils prennent des décisions importantes, sans donner de précision complète. Disons qu'à l'heure actuelle, ces gens-là sont en mesure de faire à l'État québécois, à l'État fédéral, ainsi qu'à Montréal, un tort irréparable. On avait comme... Il se passait quelque chose. C'était grave. Là. D'Ottawa, là, on avait l'impression qu'à Québec, on avait perdu le contrôle.
En fait, ces paroles sont si exagérées que depuis, on a développé l'idée qu'il y avait eu en fait un complot. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral avait notamment, mais aussi le maire de Montréal, avait contribué à tel point à donner de l'importance à la crise que ça y avait anguille sous roche, qu'en fait on voulait décapiter tous les mouvements sociaux contestataires, on voulait notamment neutraliser le nationalisme québécois. Ouais. On venait de créer le Parti québécois à l'époque, on en avait fort peur. Et donc de telles paroles sont exagérées parce que rappelons qu'en 1970, le FLQ existe depuis presque 10 ans. La police a eu amplement l'occasion d'enquêter, de mener des arrestations. Ils ont une idée très précise de l'ampleur réelle du mouvement qui est absolument un groupuscule. Alors, c'est pour ça qu'on est toujours interpellé. Soit la police et le gouvernement étaient parfaitement incompétents, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune manière d'enquêter réellement sur le terrain, ne connaissaient pas littéralement ce groupuscule terroriste, soit, en fait, ils voulaient simplement en profiter pour neutraliser, pour décapiter un mouvement de contestation qui avait de plus en plus d'adhérents au Québec, voilà. Mais qui n'était se retrouvait pas au FLQ, mais qui se retrouvait dans les centrales syndicales, au Parti québécois et dans les mouvements de jeunesse.
Voilà. Gilles, tu restes avec nous, bien sûr. Gilles Laporte, historien. Beaucoup de gens veulent intervenir. On va vous donner la parole tout de suite après ceci. Où étiez-vous le 16 octobre 1970? C'était il y a 50 ans, jour pour jour. On a comme un devoir de mémoire pour les plus jeunes qui s'en souviennent peut-être pas. Jean, bonjour.
Bonjour, moi j'étais dans l'Outaouais, Isabelle.
Oui.
OK, et puis j'ai vécu la crise d'octobre, comme tous les Québécois de ces années-là.
Ouais.
Je n'étais pas directement à Montréal, mais on suivait ça de près. Et puis moi, ce qui me fait rire ce matin, c'est le « Just watch me ».
Ouais.
Parce que je me suis placé dans le contexte de l'époque. Faut faire attention, là. Uh-huh. Si on monte ce vidéo-là aujourd'hui, les gens vont dire « Mais il était maudit qu'il était arrogant. Il était arrogant, Trudeau. » Mais savez-vous, dans le contexte de ce temps-là, on trouvait pas si arrogant que ça. Uh-huh. Parce que si on se souvient, OK, la demande avait été faite par le gouvernement du Québec, M. Bourassa, de ces années-là, et du maire Jean Drapeau.
Ouais.
Et puis, on a envoyé l'armée à leur demande, eux autres. Alors, nous, quand on a vu ça, parce qu'on suivait les nouvelles, on suivait tout ce qui se passait à Montréal, OK? Alors, on ne trouvait pas ça si arrogant que ça, ouais. Just watch me.
Et la veille, merci Jean, puis vous avez raison de parler du contexte, parce que la veille, d'ailleurs, Gilles Laporte peut en témoigner, la veille du 16, le 15 octobre, il y avait quand même eu 3000 personnes, Gilles, qui avaient participé à une assemblée au Centre Paul Sauvé à Montréal. C'est une assemblée qui était quand même plutôt pro-FLQ, là.
Absolument. Il y avait un courant de sympathie actif en faveur des Felkistes. Ça va évidemment tomber brutalement le surlendemain, c'est-à-dire le samedi 17 octobre, quand on découvre le corps de Pierre Laporte. À ce moment-là, tout courant de sympathie en faveur des Felkistes s'effondre.
Voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu penses que peut-être que les fameux 3000 qu'on disait qu'ils existaient, le 3000 Felkistes, peut-être que le 15 octobre, cette manif au Centre Paul Sauvé a comme été la sonnette d'alarme, là?
En fait, plus généralement, avions-nous raison ou non de déclarer les mesures d'urgence? Elles n'ont pas rien donné. Ouais. Avec le recul, ça a été qu'un coup de massue qu'on a adressé aux militants, aux militantes du Québec, sans vraiment nuire au FLQ. Ça n'a pas permis de trouver ni Cross ni Laporte. Ça a servi à manifestement d'autres fins, y compris mettre au silence plusieurs individus qui dérangeaient dans la société à ce moment-là. Ouais. C'est bien sûr qu'on est en face d'une société qui était turbulente. À l'époque, qui était en pleine ébullition. Tout le monde en est conscient. Mais de là à faire de chacune de ces 507 personnes qui ont été arrêtées des sympathisants actifs du FLQ, c'est bien sûr exagéré.
Oui. Guy avait 6 ans à l'époque. Bonjour, Guy.
Bonjour, ça va bien?
Oui. Quel est votre souvenir de cette journée du 16 octobre?
Moi, je me souviens, l'armée est arrivée. J'habitais à Bonvio, Saint-Hubert, puis près des Laurentides, là.
Oui.
À peine à 1000 pieds du Bonvio. L'armée avait fait son campement juste à l'île du Pont-Rio. Maintenant, il y a des buildings, là, mais c'était un grand champ dans le temps. Puis je me souviens, on était là avec nos amis, puis nos petits G.I. Joe, puis on trouvait ça drôle. Mais quelques jours plus tard, j'ai été chez un ami manger. Là, la mère de mon ami me dit que ça avait été ta mère pour lui dire que c'était ici, elle était toi.
Ah oui, ça a coupé malheureusement. Merci Guy, qui avait 6 ans. René, très rapidement, vous étiez militaire?
Oui, en fait, j'avais commencé mon entraînement militaire au mois d'août 70, et ce fameux matin du mois d'octobre, lorsqu'on s'est levé, nous avons aperçu tous les gros véhicules militaires sur le terrain de parade, et on était vraiment affectés par ça. Donc, lorsque le sergent est arrivé le matin, il nous a très bien dit, relaxez les jeunes, ne vous inquiétez pas, ça ne nous regarde pas. Nous, on continue notre entraînement.
Ouais.
Et voilà, c'est tout.
Ah ouais.
Et puis, c'était vraiment difficile à comprendre ce qui se passait.
Complètement. Merci, René. Claude, très rapidement, parce qu'on termine.
Bonjour. Ce dont on ne parle pas, c'est le livre de Pierre Vallière qui explique l'infiltration de la GRC dans la FLQ depuis janvier 1966. Et l'opération s'appelait l'opération Essai. Il décrit dans un livre, c'est super intéressant.
Oui, tout à fait, vous avez raison de le mentionner, le livre de Pierre Vallière. Ben, Louis Fournier en parle de l'opération SL dans son livre également, FLQ. Il y a plein de livres en ce moment d'ailleurs, merci Claude, qui paraissent sur le sujet. Si vous avez des jeunes, parlez-en avec eux. Bon, je pense que ça fait partie de notre histoire, n'est-ce pas Gilles Laporte?
Absolument, il y a un très beau documentaire sur les Frères Rose ici, qui est disponible en ligne.
Oui, ça ne nous empêche pas d'être critiques, de regarder ça, d'analyser avec ce passage du temps, ces 50 dernières années qui nous permettent aujourd'hui de peut-être comprendre un peu plus le contexte d'une époque qui était, oui, turbulente, mais importante dans l'histoire du Québec et pas juste dans l'histoire nationaliste du Québec, dans toute l'histoire du Québec. Merci Gilles Laporte, c'est toujours intéressant un petit cours d'histoire comme ça avant la fin de semaine. Merci Gilles Laporte,
merci
historien.
Merci de votre intérêt pour l'histoire, Isabelle.
Merci, merci beaucoup. Hey, merci à tout le monde. C'est vraiment une belle semaine qu'on a passée ensemble. On a débattu plein d'affaires, on a jasé. On sait qu'on pourra passer l'Halloween. Avouez que quand même, ça nous met de bonne humeur. Passez une très très belle fin de semaine. J'en profite pour remercier mon équipe, Maxime Paquet à la technique. Merci aux recherchistes Isabelle Ornormand. Je vous embrasse. Bonne fin de semaine, tout le monde, à lundi.
C'est l'Halloween, on veut des bonbons.